Vous écoutez RFI, il est 19h30 à Paris et Kinshasa, 18h30 en temps universel.
Afrique Soir sur RFI.
Et c'est lors de la première édition d'Afrique Soir de ce mercredi. Elle vous est présentée par Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous. À la une, la situation dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous ferons le point sur la situation dans le Nord Kivu et nous irons à Kinshasa où une déclaration du président Félix Tshisekedi est attendue dans la soirée. C'est officiel depuis aujourd'hui, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ne sont plus membres de la CEDEAO. Ces trois pays dirigés par une junte militaire ont quitté l'organisation ouest-africaine. Quelles sont les conséquences pour leurs ressortissants? Ce sera le dossier d'Afrique Soir. Le rapport sur le rôle de la France dans la répression des mouvements indépendantistes au Cameroun entre 1945 et 1971, rapport remis au président Paul Biya, les auteurs confirment que la France a bien mené une guerre de décolonisation. Le football, une soirée Ligue des Champions européenne. Ce soir, le PSG se déplace à Stuttgart. Brest reçoit le Real Madrid de Kylian Mbappé. Et enfin, musique, le rappeur franco-congolais Youssoupha vient de sortir son dernier album, Amour Suprême. À Kinshasa, la situation reste tendue après les manifestations violentes d'hier, des rassemblements initialement prévus pour protester contre l'offensive des rebelles du M23 sur Goma dans le Nord Kivu et qui se sont finalement transformés en attaques et en pillages de certaines ambassades et de commerces. Hier soir, le gouverneur de Kinshasa a reporté toutes les marches qui étaient prévues aujourd'hui à une date ultérieure, indiquant qu'il fallait prendre le temps pour qu'elles soient mieux encadrées. Alexandra Branjon, vous êtes notre envoyée spéciale à Kinshasa. Alexandra, comment s'est passée cette journée ?
Eh bien, il y a eu une reprise timide des activités aujourd'hui. Le centre-ville est resté relativement calme, mais il y avait nettement moins de monde que d'habitude dans les rues. De nombreux magasins, notamment les grandes enseignes, sont restés fermés après les pillages d'hier. Écoles et universités n'ont pas ouvert leurs portes. Quelques rassemblements ont toutefois été signalés ce matin près de la gare centrale, près du rond-point Kinmazière, mais ils ont été rapidement dispersés par la police congolaise. Je vous rappelle qu'hier, plusieurs ambassades ont été ciblées lors de ces manifestations, celles de la France, des États-Unis, de la Belgique qui ont essuyé des jets de pierre. Les plus touchées ont été celles du Kenya et de l'Ouganda qui ont été entièrement saccagées, les fenêtres brisées et des véhicules incendiés. Aujourd'hui, police et militaires congolais sont déployés devant certaines chancelleries de la capitale. Et vous le disiez, on attend ce soir une communication du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui ne s'est pas encore exprimé depuis l'offensive sur Goma.
Alexandra Branjon en direct de Kinshasa. Et puis dans un communiqué, le président angolais João Lourenço, médiateur dans la crise entre Kinshasa et Kigali, déplore, je cite, l'occupation de la ville de Goma et appelle au retrait immédiat du M23 des territoires illégalement occupés. Il réclame également le retrait immédiat des forces de défense rwandaises du territoire congolais qui, selon lui, sont des conditions nécessaires à la convocation d'un sommet tripartite à Luanda. Fin de citation. Venons-en à présent à la situation à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Bonsoir Pierre Firsian.
Bonsoir Sylvie.
Le calme est revenu cet après-midi après quelques échanges de tirs ce matin en périphérie.
Oui, des tirs sporadiques qui ont cessé cet après-midi et ce alors que les éléments du M23 ont pris position dans la plupart des quartiers de la ville. Les habitants ont profité de cette accalmie pour sortir et tenter de trouver de la nourriture ou pour chercher des proches disparus. Des corps sans vie sont encore visibles dans les rues. De nombreux blessés continuent d'affluer dans les hôpitaux. Celui de Kichero est saturé par l'afflux de blessés, selon MSF. Les cadavres sont, eux, envoyés vers les morgues. La très grande majorité de ces victimes sont des civils, selon le CICR.
Et dans une interview téléphonique accordée à l'AFP, Vincent Karega, qui est l'ambassadeur itinérant du Rwanda pour la région des Grands Lacs, estime que, je cite, « Goma n'est pas une fin en soi ».
Et l'ambassadeur d'ajouter que la progression du M23 va continuer vers le sud Kivu, à moins, ajoute-t-il, que des négociations ne soient engagées avec Kinshasa. Une déclaration dont Kigali a ensuite tenté de se démarquer. Ses propos ne reflètent pas la position officielle du gouvernement, a précisé à RFI Alain Mukuralinda, le porte-parole adjoint du gouvernement rwandais. La prise de Goma est une affaire congolo-congolaise qu'il n'a pas à commenter, a-t-il ajouté, sans vraiment convaincre au vu des réactions de la communauté internationale. Dans ce contexte, le gouverneur du Sud Kivu annonce avoir renforcé le dispositif sécuritaire dans sa capitale Bukavu et a interdit toute navigation sur le lac Kivu au regard, je cite, de la situation sécuritaire très préoccupante dans sa province.
Alors on a entendu, hein, le M23 et l'armée rwandaise sont présents ce mercredi dans la plupart des quartiers de Goma et des faubourgs. À la mi-journée, plusieurs centaines de Roumains, instructeurs auprès des forces armées régulières et alliés selon Kinshasa, ou mercenaires selon Kigali, ont traversé la frontière vers la ville rwandaise de Gisenyi pour être ensuite évacués vers la Roumanie. Lucie Mouillot.
En civil et sans armes, près de 300 hommes de nationalité roumaine ont franchi à pied la grande barrière en formant plusieurs files indiennes selon les instructions des agents de sécurité rwandais. Après une fouille méthodique et un passage à l'immigration, le groupe est monté dans un convoi de bus pour prendre la route de l'aéroport international de Kigali. Dans un message posté sur le réseau social X, le ministre des Affaires étrangères rwandais, Olivier Ndungirehe, qualifie ces hommes de mercenaires recrutés par Kinshasa pour combattre auprès des FARDC et de leurs alliés. De leur côté, les autorités congolaises reconnaissent employés des sociétés militaires privées, mais seulement pour des fonctions d'instructeurs auprès de leur armée. Le porte-parole adjoint du gouvernement de Kigali, Alain Mukuralinda, affirme que le groupe s'est rendu dans une base de la MONUSCO. Le gouvernement roumain a ensuite discuté avec le Rwanda de leur évacuation par la Grande Barrière, seul point de passage possible pour sortir de Goma. Lucie Mouillot, Gisenyi, RFI.
Vous écoutez Afrique Soir, 19h36 à Kinshasa, 18h36 à Bamako. C'est désormais officiel, le Mali, le Niger et le Burkina ne sont plus membres de la CEDEAO. Les trois pays de l'Alliance des États du Sahel, l'AES, avaient annoncé leur retrait le 28 janvier de l'an dernier, avec effet immédiat. Les statuts de la CEDEAO prévoyaient un délai d'un an. Et donc, depuis ce mercredi, les deux parties considèrent que ce départ est effectif, mais des modalités de sortie devront être désormais négociées dans un communiqué publié ce matin. La CEDEAO offre tout de même une période de sursis aux pays de l'AES, le temps de définir ses modalités. Explication David Bachy.
Les principaux avantages continuent pour le moment de s'appliquer aux trois pays, dans l'intérêt supérieur des populations, indique la CEDEAO. Les passeports et cartes d'identité portant le logo de la CEDEAO restent valables, les droits de circulation ou d'établissement continuent de s'appliquer, les biens et services restent exemptés de droits de douane. Et cela jusqu'à nouvel ordre. Objectif, éviter une rupture brutale. La CEDEAO laisse par ailleurs 6 mois aux pays de l'AES pour revenir sur leur décision, une proposition balayée par les intéressés. Désormais, la CEDEAO et les pays de l'AES doivent négocier les formalités de retrait. Les pays de l'AES ne quittent pas l'UEMOA, la liberté de circulation des personnes et des marchandises reste donc garantie dans cet espace de 8 pays, dont la Côte d'Ivoire, le Sénégal ou le Bénin. Pour le reste, le Mali, le Niger et le Burkina ont déjà annoncé que les ressortissants de la CEDEAO pourraient entrer sans visa dans leur espace. La réciproque devra être négociée, tout comme les nouvelles règles qui s'imposeront aux citoyens de l'AES installés dans les pays de la CEDEAO, aux entreprises créées par des ressortissants de l'AES dans l'espace CEDEAO et inversement. En jeu également l'avenir des citoyens de l'AES fonctionnaires à la CEDEAO ou encore celui des programmes menés ou financés par la CEDEAO dans les trois pays.
Alors pour mieux comprendre les enjeux de ce retrait et des négociations qui vont s'ouvrir entre la CEDEAO et les trois pays de l'AES, écoutons l'avocat et politologue malien Oumar Berthé, chercheur associé à l'université de Rouen. Il était l'invité d'Afrique Midi, interrogé par Nicolas Sûr. Il revient sur la décision de la CEDEAO de maintenir des droits pour les ressortissants de ces trois pays, le temps que soient menées à bien les négociations sur les formalités de sortie.
50 années d'intégration sous-régionale, ça n'est pas rien, étant donné qu'il y avait une intégration particulièrement ancrée ces dernières années, qui s'est concrétisée notamment par la mise en place d'un passeport commun à l'ensemble des États membres et d'une carte biométrique également commune à l'ensemble des pays membres, de sorte qu'il n'y avait plus de frontières au sein des 15 pays membres. Une rupture brutale aurait pu avoir de lourdes conséquences pour les ressortissants de la CEDEAO et aussi les ressortissants des trois pays qui sont en train de sortir. La raison pour laquelle la CEDEAO tente le plus possible d'atténuer les conséquences et les effets de cette sortie.
Les dispositions en matière de commerce et de circulation sont donc maintenues le temps de négociation. Quels sont les points principaux, selon vous, sur lesquels vont porter les négociations à venir?
Les négociations vont porter sur la libre circulation des personnes et de leurs biens, et la liberté d'établissement et de résidence, et sur les droits des douanes et des transits entre l'ensemble des pays de la CEDEAO et de l'AIS.
Donc c'est essentiellement avec les pays de la CEDEAO qui ne sont pas membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine que l'AES ne quitte pas pour le moment.
Les pays de l'AIS s'y rendent compte évidemment que le retrait de la CEDEAO pourrait avoir de sérieuses implications. Raison pour laquelle elle n'a jamais parlé de la sortie de l'UEMOA, ce qui veut dire qu'elle compte sur cette disposition de l'UEMOA qui permet la liberté de circulation des personnes et de leurs biens dans les 8 pays membres et d'autre part aussi la liberté de résidence. Sauf qu'en ce qui concerne l'UEMOA, la liberté de résidence, contrairement à celle de la CEDEAO, est conditionnée à l'exercice d'une activité professionnelle. Et donc les 3 pays de l'AIS, pour l'instant, étant donné qu'ils ne sortiront pas de l'UEMOA, ils vont bénéficier de ces droits au sein des 8 pays de l'UEMOA.
Mais pas au sein des autres, et notamment les puissances économiques que sont le Nigeria et le Ghana.
Exactement, qui ne sont pas membres de l'UEMOA.
Il y a eu des manifestations très virulentes hier contre la CEDEAO au Burkina et au Niger, pas au Mali en revanche. Pour quelles raisons, selon vous?
Je pense qu'au Mali, une telle manifestation aujourd'hui n'aurait pas pu mobiliser dans les rues, parce qu'en réalité, la situation au Mali, elle est complètement différente de ce qu'on a observé en 2022 lorsque les Maliens sont sortis massivement contre les sanctions imposées sur la CEDEAO. Les Maliens s'y rendent compte que les discours de panafricanisme qui a jusque-là permis de mobiliser les gens dans la rue a atteint une limite de telle sorte que les autorités ne se sont même pas hasardées à mobiliser les gens dans la rue.
Omar Berthet, chercheur associé à l'Université de Rouen. Le Bénin est dernière ligne droite dans le procès du complot contre l'autorité de l'État qui se déroule devant la CRIET. Après avoir entendu les derniers témoins et lu des procès-verbaux d'audition, l'avocat de l'État béninois a plaidé à la reprise ce mercredi. Il réclame à Oswald Omeki, Olivier Boko et à son beau-frère plusieurs dizaines de milliards de francs CFA pour les préjudices subis par l'État. L'audience a été suspendue à la mi-journée. Elle doit reprendre demain. À Cotonou, Jean-Luc Aplogan.
Maître Kapo Assogba, qui défend l'État, demande à la cour de condamner Olivier Boko, son beau-frère, Roch Nyeri, en fuite, et l'ancien ministre des Sports, Oswald Omeki, à payer 77 milliards de francs CFA de dommages et d'intérêts. Il réclame également la saisie de tous leurs biens. Murmure dans la salle à l'énoncé de ces chiffres, surtout dans les bancs des proches des prévenus. Olivier Boko et Oswald Omeki l'ont écouté sans aucune réaction. Dans sa démonstration, l'avocat affirme que seul M. Olivier Boko peut acheter le patron de la garde présidentielle et mobiliser cet argent. Il explique que Oswald Omeki n'a pas ces moyens-là. L'avocat décrit le beau-frère de Olivier Boko comme le catalyseur. C'est lui que l'ancien ministre des Sports a désigné comme celui qui a mobilisé les fonds pour des activités politiques et non pour un coup d'État. Les accusés ne se sont pas exprimés, ils gardent le silence. La cour a lu une partie de leurs auditions. Olivier Boko a déclaré devant les magistrats instructeurs, je ne peux pas faire un coup d'État à mon régime. Talon président, c'est Boko président. Je ne suis ni informé ni mêlé à un coup d'État. Le réquisitoire du ministère public est prévu pour demain, jeudi. Jean-Luc Aplogan, Cotonou, RFI.
Direction le Tchad, où s'est tenu le 13e congrès du Mouvement Patriotique du Salut, le MPS. C'était au Palais du 15, le Palais des Arts et de la Culture de N'Djamena. Mahamat Idriss Déby, jusque-là président d'honneur, est désigné aujourd'hui président national du parti au pouvoir. Bonsoir Nadia Ben Mafoud, vous êtes en ligne de N'Djamena.
Bonsoir Sylvie Berruet.
Un nouveau secrétaire général a été choisi aujourd'hui pour le MPS.
Oui, et il s'agit d'Aziz Mahamat Saleh, actuel ministre des Infrastructures et du Désenclavement, mais aussi porte-parole de la commission en charge de la gestion du départ des militaires français. Il remplace donc Mahamat Zembada, figure historique du parti, écarté pour les élections législatives du 29 décembre lorsque l'Agence nationale de gestion des élections avait rejeté sa candidature. L'autre information du jour, eh bien, c'est la désignation à l'unanimité par la direction du parti de Mahamat Idriss Déby Habibi comme président national du MPS. Il était jusque-là président d'honneur. C'est d'ailleurs lui qui a annoncé avoir choisi Aziz Mamad Salé comme secrétaire général aujourd'hui. L'implication du président au sein du MPS est critiquée par une partie de l'opposition qui évoque l'article 77 de la Constitution. Celui-ci interdit au chef de l'État d'exercer des fonctions au sein d'un parti politique. Par ailleurs, le président tchadien a salué Succès Masra, opposant et président des transformateurs, pour la main qui lui a tendue, se disant prêt à travailler avec lui.
Nadia Benmafoud en ligne de N'Djamena pour Afrique Soir. La commission franco-camerounaise de chercheurs chargée d'analyser le rôle de la France dans la répression des mouvements indépendantistes camerounais a donc présenté hier son rapport au président Paul Biya. Les auteurs confirment que la France a bien mené une guerre de décolonisation contre les indépendantistes camerounais, marquée par d'extrême violence, une guerre amorcée dès 1945 après le second conflit mondial qui s'intensifiera à partir de 1955 et dont l'action se poursuit après l'indépendance formelle du Cameroun le 1er janvier 1960. Florence Maurice.
L'indépendance ne constitue absolument pas une rupture nette avec la période coloniale, expliquent les auteurs du rapport. Les camps de regroupement dans lesquels ont été déplacés des centaines de milliers de personnes perdurent. Des traités bilatéraux sont négociés entre Paris et le Cameroun qui donnent un blanc-seing à l'armée française pour poursuivre ses actions répressives. Les violences atteignent même leur paroxysme selon ce rapport début 1960. En avril-mai, l'armée française se livre par exemple à des bombardements à l'aide de cartouches incendiaires. L'usage du napalm est écarté, mais les auteurs du rapport insistent, ces bombardements sont dévastateurs. Fin 1960, en novembre, la France se rend également responsable de la mort de trois leaders indépendantistes en quelques semaines, Félix Moumié, Paul Momo et Jérémine Délélé. Pour décrire la relation France-Cameroun à cette époque, les auteurs évoquent une conjonction d'intérêts, une relation d'interdépendance. Le président Aïdjo, peut-on lire, met en place un régime autocratique et autoritaire avec le soutien des autorités françaises.
Florence Maurice. Et nous ouvrons la page sport d'Afrique Soir. C'est la 8e et dernière journée de ce tour principal de la Ligue des Champions. On parle de foot, bien sûr. 18 matchs à suivre en simultané à partir de 20h, temps universel. Bonsoir Sofiane Amassian.
Bonsoir Sylvie, bonsoir à tous.
De l'enjeu, il y en a sur à peu près sur toutes les pelouses. Hein. Direction l'Allemagne d'abord, du côté de Stuttgart, où le Paris Saint-Germain va tenter de valider sa place pour les barrages.
Oui, finir parmi les 24 équipes les mieux classées sur 36. Sylvie, une formalité, hein, logiquement, quand on s'appelle le Paris Saint-Germain, mais pas cette saison. Il a fallu cravacher pour battre la semaine dernière Manchester City sur le score de 4-2. On rappelle que les Parisiens étaient menés 2-0. Les Parisiens qui sont remontés à la 22e place, synonyme de barrage. Mais les choses, on vous le promet, vont bouger ce soir. Stuttgart également a besoin de points pour assurer la qualification. Stuttgart-PSG, l'un des deux matchs tiens, commenté durant notre soirée spéciale sur RFI. Cédric de Oliveira au micro. Prise d'antenne 19h40, temps universel. L'autre grosse écurie européenne en danger, Sylvie, eh bien c'est Manchester City, actuellement 25e. City qui est dans l'obligation de faire un résultat à domicile. Ce sera contre les Belges de Bruges.
Et puis Sofiane, l'autre match hein, qui sera commenté ce soir sur RFI par Thomas de Saint-Léger, c'est Brest qui reçoit le Real Madrid.
Mais vous n'êtes pas trompé, hein. Brest face au Real. Ouais. Vous ne rêvez pas, les Merengues au stade du Roudourou de Guingamp en Bretagne. Les Merengues avec leurs 12 points. Au compteur, ils sont derrière le stade brestois, 13e au classement et déjà assuré au minimum de disputer les barrages. Un match de rêve, tout simplement, pour l'attaquant Bissau guinéen de Brest, Mama Baldé.
Oui, c'est possible. Lille, ils ont réussi à battre Real Madrid. On va faire qu'est-ce qu'on peut contrôler et ça va être un bon match, même pour nous. Je trouve que c'est des bons joueurs en face. Et ça va nous permettre de montrer notre capacité aussi d'aborder le match.
Et Mama Baldé au micro de Thomas de Saint-Léger, Brest, qui en cas de victoire pourrait se rapprocher du top 8, le top 8 synonyme de 8e de finale. Et puis d'autres matchs intéressants, Sylvie à l'appel, Lille Feyenoord, là encore un duel entre deux équipes qui rêvent de finir dans les 8 premiers. Inter Milan Monaco, les Italiens sont 4e, les Monégasques 10e. Et puis cette affiche, l'affiche de la soirée qui oppose deux équipes flamboyantes offensivement. Le Barça d'un côté, déjà assuré de finir dans les 8 premiers. Le Barça qui accueille l'Atalanta. À Bergame, 7e, qui sera privé tout de même de son atout numéro 1, le Nigérian Ademola Lookman.
Et puis Sofiane Amassian, vous allez nous faire vivre cette soirée en direct sur RFI.
On va essayer. À tout à l'heure, 19h40, temps universel.
À tout à l'heure. En Tunisie, des milliers de soldats ont été conscrits sous le protectorat français pour aller grossir les rangs des tirailleurs africains. Peu d'archives subsistent encore de l'engagement des Tunisiens dans la Grande Guerre, celle de 14-18, mais grâce à une collaboration tuniso-allemande entre la Université Humboldt de Berlin et la phonothèque du Centre des musiques arabes et méditerranéennes de Tunisienne, l'Allemagne vient de remettre au pays des centaines d'archives sonores de soldats prisonniers pendant cette guerre. Lydia Blaise.
Un chant qui s'élève pour exprimer la dureté de l'exil et de la guerre, enregistré il y a plus d'un siècle, pendant la guerre de 14-18. Une des premières traces sonores des tirailleurs tunisiens, comme l'explique Mounir Entati, conseiller culturel et ancien directeur du Centre des musiques arabes. Il a découvert par hasard ses archives pour la première fois en 2000, lors d'une visite à Berlin, pour une conférence au musée ethnographique.
Un jour, j'étais un peu fatigué, je suis allé à la bibliothèque, vraiment, ça s'est passé comme ça, et je demande, est-ce qu'il y a des enregistrements qui concernent la Tunisie ? Et c'était le déclenchement, je découvre qu'il y a vraiment un énorme trésor, et je me suis consacré pour essayer de voir les documents, pour écouter, etc.
25 ans plus tard, ces archives sont enfin rapatriées à Tunis, après beaucoup de négociations.
Et les Allemands, dans le cadre d'une révision un peu de leur politique vis-à-vis de l'héritage de la période coloniale, il y a eu de plus en plus de voix et de chercheurs en Allemagne qui ont appelé à libérer, en quelque sorte, les archives, libérer ces voix et les re-socialiser, en quelque sorte.
Ce soldat que l'on entend, Sadok Ben Rachid, fermier, était détenu dans un camp de près de 4000 prisonniers au sud de Berlin, lorsque des Allemands ont décidé de mener des expériences ethnographiques en enregistrant ces tirailleurs venus d'Afrique du Nord et subsaharienne dans leur quotidien, sur des gramophones et des cylindres phonographiques.
Il y en a qui étaient des poètes aussi et musiciens à la fois, et donc qui ont mis des paroles sur d'autres, d'anciennes mélodies pour passer des messages. Mais il y a aussi d'autres prisonniers auxquels on a demandé, par exemple, de réciter du Coran ou de chanter une chanson de leur bled. Donc, c'est un peu varié. Pour moi, c'est très émouvant, évidemment, parce que c'est de l'archéologie.
Ce projet, financé par la German Lost Art Foundation, marque ainsi le début d'un travail de mémoire en Tunisie, mais pas seulement, puisque 111 des enregistrements remis à la Tunisie sont ceux de tirailleurs originaires de toute l'Afrique du Nord. Lilia Blaise, Tunis, RFI.
RFI 19h52 à Paris, à suivre ce soir sur la radio du Monde. Accent d'Europe, reportage en Turquie où l'opposition demande au gouvernement de fournir un repas gratuit par jour dans les écoles publiques. Depuis plusieurs années, l'hyperinflation aggrave la pauvreté et la malnutrition infantile augmente. Écoutez Zineb, elle est institutrice et mère de famille, elle témoigne.
L'odeur des repas parvient jusqu'aux classes. Et mon fils m'a souvent demandé « Maman, est-ce que tu penses que les copains qui ne mangent pas à la cantine sont tristes ?» Et je vous parle là d'une école au centre d'Ankara, la capitale de la Turquie. La pauvreté a énormément progressé ces dernières années. Il y a plein de familles qui n'arrivent pas à offrir ne serait-ce qu'un repas équilibré à leurs enfants chaque jour.
Et puis à 19h40, temps universel, Sofiane Amazian vous attend pour la soirée football et Ligue des Champions. Stuttgart reçoit le PSG notamment, Brest, le Real Madrid. Et donc nous avons sur place des envoyés spéciaux, donc soirée foot à suivre également sur la radio du Monde. Afrique Soir, et c'est le moment de notre rendez-vous musique, et c'est avec Pierre Vallée. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Sylvie, bonsoir à tous.
Et vous nous parlez ce soir d'un artiste chevronné.
Oui, je vais vous parler ce soir de Youssoupha, qui après 3 ans de silence vient de sortir Amour Suprême, son 7e album. Youssoupha, un artiste qui a grandi à Kinshasa, puis en banlieue parisienne, où il découvre le rap avant de devenir lui-même une des figures du mouvement. Grâce notamment à une écriture à la fois subtile et puissante, pleine de références, de rimes efficaces. Ce qui n'est pas étonnant de la part de quelqu'un qui a fait des études littéraires à la Sorbonne.
Un disque qui se distingue des autres productions.
Oui, c'est un peu cliché de le dire, mais il casse les codes du rap. Certes, avec son débit, son flow et sa façon d'appuyer sur les mots, on est clairement dans l'univers du rap. Mais tout le reste, la musique et les textes, sortent clairement du cadre. La boîte à rythme, par exemple, n'est pas forcément omniprésente. Il y a même beaucoup de passages où elle disparaît pour faire de la place au chœur, avec des ambiances tout en douceur, plus profondes, proche de l'afrobeat nigérian et de la main piano que du rap.
Et puis ses textes hein, aussi se démarquent.
Oui, là aussi, on est loin des clichés liés au rap. On n'est pas du tout dans l'apologie du ghetto, d'une vie supposée de gangster faite de richesses superficielles, de grosses voitures et de jeunes filles peu vêtues. Au contraire, ses textes sont remarquables, vraiment de sagesse, émouvants, créatifs. Un album tout en introspection sur lequel il se livre, comme sur le titre « Dieu est grande », que nous allons écouter tout de suite, un texte féministe touchant qu'il adresse à sa fille sans jamais tomber dans la mièvrerie.
Moi je suis le genre de père un peu à l'ancienne. J'ai connu ta mère avant d'avoir une vie. J'ai eu un garçon mais dans ma tradition, la vraie bénédiction c'est d'avoir une fille. Alors ma princesse, suffit que t'apparaisses pour que le temps s'arrête, 1000 mètres à la ronde. Dieu est infini et je le remercie de m'avoir choisi pour être ton daron. Imane. Pas les peurs et les beaux parleurs, moralisateurs, leur cœur est minime. Ils ont cette façon de demander pardon. Pardon à Dieu et jamais aux victimes. On peut s'aimer sans toujours être d'accord. On peut s'aider même si on se connaît à peine. Si t'as des enfants, apprends-leur d'abord ce que t'aurais aimé qu'à toi on t'enseigne. Parfois le temps de la justice est trop long. Fais le bien sur terre avant de parler des cieux. Certaines croyances viennent tout droit des colons. Tu peux faire le tri pour te rapprocher de Dieu. C'est pas si grave de faire des erreurs. Ce qui est grave c'est de vouloir les ignorer. Le but c'est pas d'être la meilleure, le but c'est de chaque jour s'améliorer. Imane. T'es pas obligé d'être une fille banale, t'es pas obligé d'être Michelle Obama, t'es pas obligé de vouloir être mère, t'es pas obligé de vouloir être reine. N'écoute pas les hommes, n'écoute pas les ordres, n'écoute pas les codes qui disent de la merde. Apprends encore à aimer ton corps, à aimer tes formes, à t'aimer toi-même. On a nos valeurs et nos traditions. Si ton amoureux t'emmène en balade, dis-lui bien que c'est lui qui paiera l'addition. Dis-lui que c'est l'impôt sur le patriarcat. Tu m'idéalises, mais même ton daddy est paternaliste. Faut que tu me pardonnes, dites à ces messieurs. C'est bien prétentieux d'apprendre la vie à celle qui la donne. Imane.
Dieu est grande, dernier album de Youssoupha, c'était le coup de cœur de Pierre Vallée ce soir. Youssoupha qui sera en concert le 17 mai à Cergy, le 24 au Mans et à l'Olympia à Paris le 12 juin. Merci de nous avoir suivis, c'est la fin de cette première édition d'Afrique Soir. Merci à toute l'équipe, à la réalisation ce soir, Jonathan Brady, et bonne soirée.
T'es brave, belle, élégante, c'est pour ça que tu portes fier leur prénom. Tant que tu peux, il faut défier les lois. Tant que tu peux, il faut défier les rois. Et si tu te demandes que ta foi représente...
RFI, la sélection du mois.
Orchestra Baobab et Idrissa Diop.
Je suis vraiment défoncé, ils me disent d'arrêter d'y penser.
Andéol.
Ces temps-ci, après minuit, je dis rien de compréhensible. Le compte bancaire dans le rouge, mais genre vraiment très foncé. Comme ton rouge à lèvres, c'était peut-être un
signe. Olamide et Ross.
Hello Habibi, salam alaikum Habibi. If you're ready, let's go Habibi. I told you Habibi, where the money at Habibi. I would definitely call you Habibi. With the gold, with the buy soon Habibi. Là, la max pour un peu.
Mais ma meilleure ennemie, c'est toi. Fuis-moi. Le pire, c'est toi et moi.
Stromae et Pomme.
Mais si tu cherches encore.
Toute la sélection du mois à découvrir sur RFI Musique. RFI, la sélection du mois.
Achaqué et Whisky.
La journée je reste calme, mais quand je rentre chez moi,
Arma Jackson.
Je ferme ma clé à double tour et tous les jours je danse comme dans Hoosberg.
Docteur Yarrow.
Ah, c'est bon. Chérie, moi j'ai.
un minimum 5. Mériter le repos, minimum 5. VH invite au minimum 6. Million sur le déco, minimum 5.
Joey doit finir.
Dans crétin, y'a pas de magie. On vient, on prend tout comme ça, y'a pas de cachis. Pas de semblant, full baby dans
toute la sélection du mois à découvrir sur RFI.
Chérie, nous sous sa cambrée. Baby, je l'étale, vini.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Demain,
journée mondiale des maladies tropicales négligées.
Vendredi,
question de femmes, nous parlons des symptômes et traitements des troubles et maladies de la thyroïde.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
L'information continue sur la chaîne WhatsApp de RFI.
Chaque jour, vous pouvez retrouver directement sur votre téléphone les principaux titres de l'actualité internationale et les analyses de RFI, ainsi qu'une sélection de nos émissions. Pour nous suivre, c'est simple. Allez sur l'onglet « Actu » de votre application, abonnez-vous à notre chaîne et rejoignez la communauté WhatsApp de RFI.
RFI sur WhatsApp, l'actualité autrement, l'information.